D'accord. En fait, j'avais prévu de faire une intervention qui s'intitulait normalement Ambienti et territoire urbain, mais à vous entendre parler ce matin, j'aimerais en fait changer un petit peu de cap pour être plus en résonance avec votre intervention. Et donc je voudrais revenir sur le travail d'un artiste qui me semble particulièrement important et dont il me semble très pertinent de parler là ce matin, qui est Anthony McCall. Alors Anthony McCall est un artiste d'origine britannique qui, de manière générale, on va dire, dans son travail, traite des conditions d'exposition. Et c'est ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la question de la temporalité et aussi de l'attention flottante, traite de la condition du spectateur. Alors il le fait dans une économie de moyens très minimaliste. Hein. C'est une œuvre qui est axée principalement autour du médium filmique, dans une approche qui se veut radicalement phénoménologique. Il se fonde donc à chaque fois sur l'examen des conditions où son activité se manifeste, donc les espaces, les lieux. Il invite le public, son public, le public de ses dispositifs, à être extrêmement attentif aux liens qu'il peut nouer avec l'environnement dans lequel il se situe. Alors évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que ça interroge, c'est une des grandes ruptures de l'histoire de l'art dans le XXe siècle, cette question justement du passage de l'hégémonie du visuel, on dira cette fameuse formule, à une considération du corps du spectateur dans toute sa sensorialité, et où justement l'objet n'est plus à voir mais à penser, et où il se donne comme objet de notre conscience au monde. Alors, en convoquant de manière, encore une fois, très générale, la projection, la question de l'immatérialité, que sont la lumière, et puis aussi la question de la durée, de l'éphémère, McCall va donc initier des dispositifs, des métaphores spatiales, à l'échelle habitable, donc, de l'appareillage filmique. C'est-à-dire qu'il va questionner ce qu'est le film, la projection filmique de manière intrinsèque. Alors je parle de métaphore spatiale, pourquoi ? Parce que la métaphore, comme vous le savez sans doute, étymologiquement est un transport. C'est-à-dire que c'est un processus qui est éminemment mobile. Et ces espaces, donc, que propose McCall d'expérimenter à son public, sont souvent le lieu d'un parcours. Donc tout élément qui s'y trouve, à savoir l'impalpable, comme la lumière, ou le tangible aussi, manifeste à chaque fois une mobilité intrinsèque qui transite du plan surface, qu'est le support tout simplement bidimensionnel du film, à un volume. Alors là, je parle de la fameuse installation « Line Describing a Cone », très célèbre désormais, présentée notamment à Nuit Blanche et qui connaît de nombreuses présentations récemment. Alors évidemment, McCall sait que il sollicite de la part du spectateur un régime d'attention bien particulier. Oui, alors j'ai des images, et il faudrait que je puisse vous les retrouver. Je vais vous montrer ça en images, c'est bien plus parlant, parce que comme toute expérience qui est de type environnemental, il est très important de voir ça. Alors j'essaye de retrouver ça. C'est tout simplement le passage Line Describing a Cone. Voilà, vous allez la voir. Est-ce que je peux ouvrir cette vidéo? Je la mets dans quoi? Pardon? Ah oui, VLC.
Il est sur le contrôle. Il est devenu pas du contrôle. Présenter à lui. Mais allez, on va ouvrir le fichier dans le logiciel VLC.
Ouvrir le fichier dans le logiciel. Pardon. Alors vous allez le voir en image et ça vous donnera tout de suite une idée très précise. J'ai une petite vidéo. Mais ce n'est pas de cette pièce que je veux parler, donc c'est pour ça que je la citais, mais je passais dessus très vite. En plein écran.
Deux fois sur cliquer deux fois.
Voilà. Donc là, il s'agit de Line Describing Icon, mais comme je le disais, ce n'est absolument pas de ce travail dont je veux parler, même si c'est une pièce très emblématique dans le travail d'Anthony McCall, et qui est donc cette histoire de lumière solide, en fait, de sculpture de lumière solide que McCall a développée dans les années 70 à travers une série de films géométriques, dont Line Describing a Cone est le premier et dont Long Film for Ambient Light est le dernier. Et c'est sur Long Film for Ambient Light que je souhaiterais m'arrêter aujourd'hui avec vous. Donc, on le sait, le XXe siècle va voir passer cette idée de... On va passer, on va dire, à une philosophie de l'étendue dite cartésienne, comme ça, par laquelle l'espace est considéré objectivement, une conception de la centralité beaucoup plus égocentrique, où le moi devient être au centre du monde, comme ça, et où forcément on devient tributaire d'une temporalité aux qualités multiples. Alors on va assister aussi parallèlement à ça, à transformation des cadres de la perception, plutôt à une nouvelle prise de conscience des lois de la perception pour l'individu. C'est-à-dire que l'espace, le temps, le mouvement ne sont plus considérés ou perçus de manière autonome. Au contraire, ils vont constituer ces trois données, donc si on peut appeler ça des données, ils vont constituer les éléments d'une connexion universelle qui agissent comme ça, réciproquement les uns sur les autres. Alors, ils sont dans un rapport, dans une relation d'expression réciproque, comme le disait Bachelard, une découverte nouvelle faite sur la structure de l'espace ou du temps entraîne toujours une réaction sur la structure de notre esprit. Et bien sûr, c'est notre présence au monde, et particulièrement notre situation spatiale, qui va donner au temps un sens. Alors, en 1975, donc comme je vous le disais, l'espace et le temps deviennent les préoccupations majeures de McCall. Et il va affirmer ce principe sur l'interrelation entre la durée, l'espace et l'expérience du public dans un travail qui s'intitule « Two Laws of Presentation », deux lois de présentation, une sorte de statement, en fait, qui est présenté sous la forme de schéma que vous voyez tout à l'heure, qui doivent être par là. Alors, Two Laws of Presentation, donc c'est un statement qui est présenté sous la forme de schéma qui utilise des formes propres à McCall, à savoir le point et la ligne. Il y postule deux règles. La première, c'est celle-ci, c'est la forme de l'attention est une fonction de l'attente. Et la seconde, c'est la forme de l'attente est une fonction de la durée. Alors ces principes, donc, comme vous le voyez, sont illustrés par un jeu de neuf cartes index, chacune correspondant à un intervalle de durée, et McCall y représente le temps comme l'espace, hein, ça c'est très important, par des moyens qui rappellent à ceux finalement des partitions musicales qui s'étalent donc de 5 secondes à 12 ans, et il utilise pour ce faire une simple ligne horizontale. Alors il y a des points noirs qui symbolisent quoi ? Ces points noirs symbolisent tout simplement le public, la densité du public. C'est-à-dire de 5 secondes à 5 minutes, voire 30 minutes. Celui-ci forme un cercle qui est relativement concentré autour de l'événement. Et à partir d'une heure et demie, on voit que les 5 comme ça se dispersent peu à peu vers d'autres coins de la pièce, qui est symbolisé là ici, vous l'aurez compris par la carte, pour se réduire au bout de 12 heures, bien sûr, à un seul point d'attention. Et au bout de 12 ans, qui a expérimenté une œuvre sur place in situ pendant plus de 12 ans, je vous pose la question. Évidemment, ça se traduit par une absence totale de présence. Alors, dans ce travail, McCall cherche à démontrer que les paramètres spatiaux et temporels se déterminent de manière complètement réciproque, c'est-à-dire que l'espace peut apparaître comme une construction empirique de notre esprit, mais de toute manière, il ne se montre qu'en fonction du temps. Et il propose donc, en tout cas, moi, ça m'avait aussi fait penser à ça, une sorte d'expérience radicale, pour le coup, mais de ce que vos collègues, Daniel Siret et Philippe Vosslin, auront traduit, vont théoriser bien plus tard, sous l'expression de la géométrie des ambiances, et qui, en quelque sorte, me rappelle un petit peu à ça, dans cette réflexion du complexe au simplexe, le modèle des objets ambiants. Alors c'est cette même dialectique du statique, du dynamique que McCall convoque dans son statement, donc qui est rédigé pour Two Laws of Presentation et que l'on trouve à l'œuvre aussi dans Long Film for Ambient Light. Long Film for Ambient Light, c'est justement ce qui va permettre à Anthony McCall d'appliquer son postulat de Two Laws of Presentation, mais il va le faire à grande échelle cette fois-ci, c'est-à-dire que ce ne sera pas sous la forme de carte index, là il va le faire à l'échelle environnementale. C'est donc, comme je vous le disais, le dernier de sa série de films géométriques, et c'est un dispositif qui s'est déroulé à l'Idea Warehouse en 1975. Donc c'était un endroit qui accueillait sur une durée de 24 heures des propositions, des interventions d'artistes. Ça se passe en l'occurrence du 18 juin à midi, très précisément, au 19 juin à midi. Et comme vous le voyez, c'est un espace qui est investi, qui se trouve au dernier étage d'un loft à Soho, bon, qui à l'époque évidemment n'était absolument pas dans le même état que les lofts qu'on peut connaître aujourd'hui. Et pour McCall, ce qui l'a intéressé, c'est qu'il présentait la particularité architecturale, ce loft, d'avoir deux murs à 9 larges fenêtres. L'un qui était exposé au sud, qui donnait sur la rue, et l'autre qui était exposé au nord. Alors la première fois qu'il a vu cet espace, évidemment, il a noté que ces murs perforés le rappelaient à la forme du film, de la bande d'un film. C'est-à-dire que la lumière qui entrait comme ça dans l'espace, à travers les fenêtres, la réverbération aussi au plafond et dans la pièce, provoquait chez lui des espèces de réminiscences qui lui faisaient penser à la diffusion du rayon lumineux émis par le projecteur d'un film. Alors il va décider donc d'explorer cette analogie de l'architecture du lieu avec l'appareillage filmique, par, encore une fois, des interventions aussi simples qu'efficaces, hein, vraiment une économie de moyens minimaliste. Il va donc commencer par recouvrir toutes les fenêtres qui sont exposées au sud avec du papier blanc et celles qui sont exposées au nord avec du papier noir. Et donc, pendant la journée, les premières deviennent évidemment des sources de lumière, ponctuant comme ça la structure architecturale, imitant aussi l'aspect d'une série de projecteurs, hein, on voit que les ouvertures par lesquelles passe la lumière du jour s'illuminent, faisant penser évidemment à la surface d'un film. Dans le soir, évidemment, ces fenêtres deviennent, dans la période nocturne, ces ouvertures deviennent surface d'écran, tout simplement. Pourquoi ? Parce que dans cet espace qu'il a volontairement laissé vide, Anthony McCall dispose une ampoule, une seule, à hauteur des yeux, précisément au centre de la pièce, et qui va éclairer artificiellement l'espace. Donc, d'où cette analogie comme ça avec l'appareillage filmique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette pièce qui me semble très importante dans l'histoire des installations de l'environnement, du film, mais bien d'autres choses aussi. Moi, par rapport à votre intervention, Monsieur Augoyard. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est que Long Film for Ambient Light développe justement différentes temporalités. Hein. C'est une durée de 24 heures. Et on voit que l'intensité comme ça de la lumière change, que le nombre de visiteurs augmente, va se réduire aussi, renvoyant justement à ce que McCall avait conceptualisé dans Two Hours of Presentation. C'est-à-dire que toutes les expectatives diffèrent selon chaque individu, que l'œuvre, finalement, est plus performative que répétitive ou vide. Alors évidemment, toute la subtilité comme ça des changements n'est pas visible lorsqu'on est dans la pièce, mais dès lors que l'on revient sur ses pas, que l'on quitte l'espace pour y revenir, que l'on se retourne hein, même, on voit qu'il y a des modifications très perceptibles qui se sont produites. Alors cet engagement comme ça de la mémoire finalement pour le spectateur à petite et grande échelle est assez capital pour les opérations du film, film qui ne se veut pas forcément narratif par ailleurs. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il requiert un engagement pour se rappeler de ce qui s'est passé avant et aussi pour prédire ce qui arrivera après. Alors, en expérimentant les films de McCall, du plus ancien au plus récent de ses travaux, le moment qui fait sens dans une des perceptions que l'on en a, c'est lorsque les perceptions passées sont corollaires à celles du futur. C'est-à-dire que parfois, l'environnement va offrir des indices qui permettent d'inférer que les modifications apportées à la conscience de l'espace sont ressenties de manière profonde, mais sur un mode implicite. Et d'autres fois, elles y sont soulignées. Ce processus de modification apparente, comme ça, de configuration de l'espace, de l'ambiance, donc, en fonction du déplacement du public, mais aussi de sa durée, c'est quelque chose qui a été parfaitement décrit par Victor Bergin en 1969 dans son Esthétique situationnelle, dans un texte où il s'attachait à dissocier les concepts d'objets artistiques et de formes artistiques du monde des objets manufacturés pour les redéfinir en fonction des structures de l'expérience psychologique. Et Bergin affirme, par exemple, que les champs perceptifs ne sont pas appréhendés comme des objets en soi. Et il exige que les matériaux réels situés dans l'espace-temps extérieur soient utilisés de façon à subvertir leur caractère d'objet afin de les utiliser comme signaux de situation. Donc on est vraiment là dans une question de la dématérialisation, mais dans cette interrelation aussi de l'espace-temps. Je vais très vite conclure en rebondissant un petit peu sur cette question de l'attention flottante. Moi, ce dispositif qu'a initié Anthony McCall dans les années 70, son film for Ambient Light, et aussi le constat fondamental qu'il effectue sur la différence des modes d'appréhension de l'individu en fonction du médium utilisé, m'a rappelé à certaines réflexions développées par Walter Benjamin sur l'architecture et le cinéma, ces réflexions très fameuses désormais dans son fameux essai « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique ». Alors évidemment, Benjamin ne pense pas la perception pour elle-même, mais bien sûr les transformations sociales qui vont être révélées par ces changements de la perception. Et il élabore, comme vous le savez, une esthétique à la fois historique, sociale et politique. Mais pour autant, le mode de réception commun à l'architecture et au cinéma tel qu'il l'analyse n'est absolument pas étranger aux considérations phénoménologiques que les dispositifs de McCall instaurent envers son public, notamment à travers la distinction que le philosophe établit entre la réception tactile et la réception visuelle. Donc je vous le rappelle très vite, mais je pense que c'est dans toutes vos mémoires où il dit, Benjamin, les édifices font l'objet d'une double réception par l'usage et par la perception, en termes plus précis, d'une réception tactile et d'une réception visuelle. La perception tactile, donc, engage les bases d'un rapport pratique au monde, pour celui qui perçoit, et elle induit par ailleurs une remise en cause des habitudes spatio-temporelles. Alors c'est une perception visuelle, c'est une perception tactile, mais c'est une perception visuelle qui n'est pas contemplative uniquement, comme la perception optique. Autrement dit, c'est une perception qui est productrice en mouvement ou d'une mise en mouvement. Et Benjamin, bien sûr, va l'opposer à la perception oratique, qui suppose comme ça ce clivage entre production et réception, et qui relève de la contemplation. Alors cette contemplation sous-tend, bien sûr, un risque d'absorption dans l'œuvre, qui est susceptible d'abolir toute distance, y compris la distance critique. Et en analysant, et je conclurai là-dessus, en analysant la réception tactile comme un contre-pouvoir à la relation cultuelle, hein, fondée sur la contemplation, il va l'associer à un mode de réception fondé sur la distraction, qu'il attribue communément donc à l'architecture et au cinéma, où il dit l'opposition entre distraction et recueillement peut encore se traduire de la façon suivante. Celui qui se recueille devant une œuvre d'art s'y abîme. Il y pénètre comme ce peintre chinois dont la légende raconte que, contemplant son tableau achevé, il y disparut. Au contraire, la masse distraite, donc on est vraiment dans ce vocabulaire aussi du début du siècle, au contraire, la masse distraite recueille l'œuvre d'art en elle. Les édifices en sont les exemples les plus évidents. De tout temps, l'architecture a été le prototype d'une œuvre d'art perçue de façon à la fois distraite et collective. Alors si j'ai fait ce switch un petit peu de dernière minute entre une communication qui ne devait absolument pas parler de ça et ce travail dans Anthony McCall, c'est vraiment pour essayer de faire le lien entre ce que vous évoquiez par rapport à la pensée de Martin Zell, ces questions de temporalité, ces questions... qui me semble très importante, d'une esthétique qui se pose entre la question de peut-être aussi cette question de l'acte et de la puissance, comme ça a pu être résumé. Mais en tout cas, cette question de l'intentionnalité et de l'attentionnalité, voilà, telle que... vous le nommiez par rapport aux travaux de Genette.